de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi Tiwi dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Tout d'abord, je vais vous présenter les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Le président Jokowi a demandé la priorité dans la mise en œuvre du projet stratégique national. Le palais Siak à Riau sera immédiatement ouvert pour accueillir la nouvelle normalité. La France rouvre ses bars, restaurants et théâtres. La Mecque a progressivement assoupli les restrictions sur COVID-19 à partir du 31 mai. Des centaines de personnes se sont évadées du centre de quarantaine Corona du Malawi. Voici le bulletin complet. Le président Joko Widodo a demandé à son personnel de prioriser la mise en œuvre du projet stratégique national qui a un impact direct sur l'économie populaire et la reprise économique nationale. Il a déclaré cela dans l'introduction à la réunion limitée nationale d'évaluation stratégique du projet pour la récupération de l'impact économique national de COVID-19 qui s'est tenue vendredi lors d'une vidéoconférence depuis le Palais Merdeka à Jakarta. Selon le président, en rapport avec le projet stratégique national en cours, il a noté plusieurs projets stratégiques nationaux qui sont très importants pour la distribution et le renforcement de l'économie populaire, par exemple le programme de certification des terres pour le peuple, la légalisation des terres de transmigration, la réforme agraire, la foresterie sociale et le rajeunissement des plantations communautaires. Le président veut s'assurer que ces programmes prioritaires continuent, mais ils suivent toujours des protocoles de santé stricts. Après plus de 2 mois de fermeture, le gouvernement de la région Siak Riau va immédiatement ouvrir le palais de Siak pour les touristes entrant dans la nouvelle normalité qui sera appliquée dans diverses régions. Le régent de Siak, Al-Fedri, à Siak vendredi a affirmé que les restrictions sociales à grande échelle, PSBB, dans le district Siak, menées entre le 15 et le 28 mai 2020, sur la base des résultats de l'évaluation du groupe de travail sur la manipulation COVID-19, fonctionnaient conformément au plan. C'est ce qui a incité le gouvernement local à rouvrir le palais de Siak au grand public tout en promouvant le protocole de santé pour anticiper la propagation du virus corona COVID-19. Le régent de Siak, Al-Fedri, a déclaré qu'il avait immédiatement rédigé la politique au stade New Normal en collaboration avec des responsables concernés, en particulier dans le domaine du tourisme, comme l'ouverture du palais Siak, l'éducation et divers autres domaines. La France a annoncé la réouverture des bars, restaurants et cafés. L'ouverture s'ouvrira à l'échelle nationale à partir du 2 juin. Le Premier ministre Edouard Philippe a également déclaré que les gens ne seraient plus confinés dans un rayon de 100 km de leur lieu de résidence. Philippe, comme l'a rapporté France 24 vendredi, a déclaré que la liberté sera les règles et les restrictions sur les exceptions. La société française peut vivre une vie presque normale sous de nouvelles règles. Après avoir rencontré des membres du cabinet pour approuver la prochaine phase, le Premier ministre a déclaré que davantage d'écoles seraient rouvertes. De plus, les musées et monuments de France rouvriront également leurs portes aux visiteurs nationaux à partir du 2 juin. Mais les résidents sont toujours priés de porter des masques. L'Arabie Saoudite a annoncé jeudi un plan de normalisation en deux étapes pour la Mecque visant à assouplir les restrictions sur le COVID-19 et à revenir progressivement à la vie normale. La première phase débutera le 31 mai, ce qui permettra l'entrée et la sortie de la Mecque entre 6h et 15h heure locale. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les prières du vendredi et les autres prières de la congrégation à la Grande Mosquée seront remises au public conformément au protocole de santé existant. La deuxième phase débutera le 21 juin, ce qui permettra aux résidents de partir entre 6h à 20h heure locale. Il a également été dit que le barbier n'était pas encore autorisé à opérer, tandis que les mariages et les funérailles pouvaient accueillir jusqu'à 50 personnes. Plus de 400 personnes ont fui le site de quarantaine de coronavirus dans le sud du Malawi en Afrique. Cela a déclenché des critiques à l'encontre du gouvernement pour ne pas avoir mis en œuvre les mesures appropriées. Selon le site d'information du Niasat Times, publié par l'agence Anadolu, vendredi, plus de 400 Malawiens qui venaient de rentrer d'Afrique du Sud ont été mis en quarantaine dans un stade de la ville Blantyre. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par la pandémie de COVID-19 au continent africain. Les résidents qui se sont enfuis étaient censés passer des tests COVID-19. Mais on ne sait pas toujours si les tests sont effectués avant qu'ils ne s'échappent ou non. L'incident s'est produit un jour seulement après que 8 personnes testées positives pour COVID-19 se soient échappées du centre d'isolement de Blantyre. Cher ami, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta. Bonsoir à tous, voici les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Gianyar, Bali. Jeudi dernier, le régent de Gianyar, Imade Mahayastre, a dirigé la démolition symbolique du marché public de Gianyar, signe du début du programme de revitalisation du marché. De plus, la démolition de l'édifice du marché sera effectuée par le gagnant de l'enchère de démolition. Selon lui, le marché public de Gianyar est la fierté de Gianyar et de Bali. Ce marché est l'un des principaux marchés de Gianyar qui accueille 1864 commerçants. Le nouveau bâtiment du marché public de Gianyar est conçu en utilisant des conceptions et des concepts modernes, avec des installations de soutien plus complètes. Il y a des escaliers mécaniques, des montes-charges, des centres culinaires, des salles de lactation, des salles bancaires, des sous-sols de stationnement, des salles de bain et d'autres installations de soutien. Bien que conçus avec un concept moderne, les caractéristiques et les avantages d'un marché traditionnel sont maintenus, à savoir l'interaction de négociations entre les vendeurs et les acheteurs. Le marché public de Gagnères devrait devenir une icône de la ville Gagnères qui a une qualité et un caractère unique qui n'est pas inférieur au marché moderne et une destination touristique dans la ville Gagnères. Ensuite, l'info de Mojokerto, Javaès. Des villages résilients ont été formés dans plusieurs villages en région Mojokerto afin d'être prêts à mettre en œuvre une nouvelle ère normale pour faire face à l'épidémie de virus corona ou COVID-19. La région de Mojokerto, Punkasiadi, en marge de l'inauguration du village Balong Mojo, district Puri, en tant que village résilient dans la région Mojokerto, a expliqué que le village résilient du COVID-19 était destiné à accélérer la rupture de la chaîne de distribution du COVID-19 avec la discipline de mise en œuvre des protocoles de santé. Il a déclaré que le protocole de santé en question, se laver diligemment les mains avec du savon et de l'eau courante, porter des masques, éviter des foules, garder toujours une distance et faire toujours des activités à la maison. Il a dit que le village résilient COVID-19 a été formé indépendamment par et pour le village lui-même. La dernière info est venue de Yogyakarta. Les habitants de Rukun Warga 9, Kelurahan Wirogunan, Yogyakarta, ont ouvert une cuisine publique de manière indépendante pour aider à répondre aux besoins alimentaires des étudiants ou des enfants à bord de la région qui n'ont pas pu rentrer chez eux en raison de la pandémie de COVID-19. Le chef de Rukun Warga 9, village Wirogunan, Yogyakarta, Yogi Prasetyo, a déclaré jeudi dernier que cette activité durait depuis plus de 18 jours et devait se poursuivre jusqu'au 30 juin. La cuisine publique, qui a été ouverte sur l'initiative des résidents locaux, a fait environ 100 paquets de riz par jour avec des plats d'accompagnement et des légumes. Le capital initial d'une cuisine publique provient d'organisations non gouvernementales s'élevant à environ 2 millions de roupies. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Serviteurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement La guerre des Balkans a pris fin avec le traité de Londres le 30 mai 1913. La guerre des Balkans est un thème d'un conflit armé dans la péninsule des Balkans de 1912 au 1913. La guerre des Balkans était une querelle entre la Ligue des Balkans, à savoir la Serbie, la Monténégro, la Grèce et la Bulgarie contre l'Empire ottoman de la Turquie. Cette guerre est la première partie des guerres des Balkans dans la péninsule des Balkans visant à saisir la Macédonie qui était contrôlée par la Turquie. La guerre a pris fin avec la victoire dans la Ligue des Balkans par la signature du traité de Londres. En conséquence de cette guerre, l'Ottoman, qui est devenu plus tard la République de Turquie, a perdu la quasi-totalité de son territoire sur le continent européen, à l'exception de Constantinople et la région environnante. La guerre des Balkans, qui a pris fin le 30 mai 1913, a commencé quand les pays des Balkans, qui incluent la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et la Monténégro, ont formé une alliance pour conquérir la Roumélie, une région dans les Balkans qui était en plus gouvernée par l'Empire ottoman. lorsque l'Ottoman a réussi d'être vaincu, les pays venaient alors en conflit, même avec l'un et l'autre, en raison des différences dans le revenu sur le zonage, le résultat de la conquête. L'autre information est sur le décès du docteur Sutomo à Surabaya le 30 mai 1938. Docteur Sutomo est l'un des nombreux héros nationaux de la nation indonésienne. Il est une figure dans le mouvement nationaliste contre la domination coloniale néerlandaise. Docteur Sutomo était fondateur de Budi Utomo, l'organisation du premier mouvement indonésien. En 1903, Sutomo a pris l'étude de médecin à School for Opleiding van Inlandische Artsen Oostovia à Batavia. En collaboration avec des collègues d'Oostovia, Sutomo a établi une association nommée Budi Utomo en 1908. Après avoir été diplômé en 1911, il a travaillé en tant que médecin du gouvernement dans diverses régions à Java et à Sumatra. En 1924, Sutomo a fondé le club d'études indonésiens en néerlandais, Indonesische Studieclub, à Surabaya. En 1930, il a fondé le Parti National Indonésien et en 1936, Parindra au Parti Indonesia Raya. Sutomo est mort à Surabaya, Java Est, le 30 mai 1938 et a été enterré au cimetière des Héros Surabaya. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. La Fédération internationale de football, FIFA, a donné la sanction de suspension contre l'Indonésie le 30 mai 2015. Cette sanction est la suite d'une querelle entre l'Association indonésienne de football, PSSI, et le ministère de la Jeunesse et des Sports, Kemenpora. FIFA a sanctionné en raison que le gouvernement indonésien a intervenu contre le football dans le pays. L'Indonésie est le deuxième pays sanctionné par la FIFA après la Grèce, l'Iran, le Kenya, le Koweït, l'Éthiopie, Madagascar, le Pérou, Brunei Darussalam, l'Irak, le Nigeria et le Cameroun. La cause de l'imposition de sanctions contre l'Indonésie était très grande. L'équipe nationale indonésienne et l'ensemble de clubs de l'Indonésie ne peuvent pas participer à des compétitions officielles de la FIFA et de l'AFC. L'équipe nationale indonésienne ne pouvait pas rivaliser sur la scène internationale au cours de la période de suspension, sauf l'équipe nationale dans les SEA Games 2015. Les clubs locaux ne peuvent pas suivre aussi la concurrence internationale et Persipura ne pouvait pas faire le jeu continu dans l'arène FC contre Pahang Football Club. Les joueurs étrangers ne peuvent pas jouer au club local. La sanction de la FIFA a été levée le 13 mai 2016. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Katakanlah pasti, katakanlah sampai kapankah luka di hati ini terbawa hilang pergi. Simpan di hati, aku mengerti bila diriku kini ada yang mengganti. Mengapa kau harus bersembunyi? Tiada, oh tiada.
Voilà la chanson de Chris Kaihato, dont le titre est « Tiada guna lagi », qui signifie « Ce n'est plus utile ». Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement La guerre des Balkans a pris fin avec le traité de Londres le 30 mai 1913. La guerre des Balkans est un thème d'un conflit armé dans la péninsule des Balkans de 1912 au 1913. La guerre des Balkans était une querelle entre la Ligue des Balkans, à savoir la Serbie, la Monténégro, la Grèce et la Bulgarie contre l'Empire ottoman de la Turquie. Cette guerre est la première partie des guerres des Balkans dans la péninsule des Balkans visant à saisir la Macédonie qui était contrôlée par la Turquie. La guerre a pris fin avec la victoire dans la Ligue des Balkans par la signature du traité de Londres. En conséquence de cette guerre, l'Ottoman, qui est devenu plus tard la République de Turquie, a perdu la quasi-totalité de son territoire sur le continent européen, à l'exception de Constantinople et la région environnante. La guerre des Balkans, qui a pris fin le 30 mai 1913, a commencé quand les pays des Balkans, qui incluent la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et la Monténégro, ont formé une alliance pour conquérir la Roumélie, une région dans les Balkans qui était encore gouvernée par l'Empire ottoman. Lorsque l'Ottoman a réussi d'être vaincu, les pays venaient alors en conflit, même avec l'un et l'autre, en raison des différences dans le revenu sur le zonage, le résultat de la conquête.
Thank you.
L'autre information est sur le décès du docteur Sutomo à Surabaya le 30 mai 1938. Docteur Sutomo est l'un des nombreux héros nationaux de la nation indonésienne. Il est une figure dans le mouvement nationaliste contre la domination coloniale néerlandaise. Docteur Sutomo était fondateur de Budi Utomo, l'organisation du premier mouvement en Indonésie. En 1903, Sutomo a pris l'étude de médecin à School for Opleiding van Inlandische Artsen Oostovia, à Batavia. En collaboration avec des collègues de Stovia, Sutomo a établi une association nommée Budi Utomo en 1908. Après avoir été diplômé en 1911, il a travaillé en tant que médecin du gouvernement dans diverses régions à Java et à Sumatra. En 1924, Sutomo a fondé le Club d'études indonésiens en néerlandais en Indonesische Stud Club à Surabaya. En 1930, il a fondé le Parti national indonésien et en 1936, Parindra au Parti Indonesia Raya. Sutomo est mort à Surabaya, Java Est, le 30 mai 1938 et a été enterré au cimetière des héros Surabaya. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. La Fédération internationale de football, FIFA, a donné la sanction de suspension contre l'Indonésie le 30 mai 2015. Cette sanction est la suite d'une querelle entre l'Association indonésienne de football, PSSI, et le ministère de la Jeunesse et des Sports, Kemenpora. FIFA a sanctionné en raison que le gouvernement indonésien a intervenu contre le football dans le pays. L'Indonésie est le deuxième pays sanctionné par la FIFA après la Grèce, l'Iran, le Kenya, le Koweït, l'Éthiopie, Madagascar, le Pérou, Brunei Darussalam, l'Irak, le Nigeria et le Cameroun. La cause de l'imposition de sanctions contre l'Indonésie était très grande. L'équipe nationale indonésienne et l'ensemble de clubs de l'Indonésie ne peuvent pas participer à des compétitions officielles de la FIFA et de l'AFC. L'équipe nationale indonésienne ne pouvait pas rivaliser sur la scène internationale au cours de la période de suspension, sauf l'équipe nationale dans les SEA Games 2015. Les clubs locaux ne peuvent pas suivre aussi la concurrence internationale et Persipura ne pouvait pas faire le jeu continu dans l'arène FC contre Pahang Football Club. Les joueurs étrangers ne peuvent pas jouer au club local. La sanction de la FIFA était levée le 13 mai 2016. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Terlanjur ku mencintaimu, detik demi detik ku berhayal kau kembali di pelukku, tapi semua itu hanya mimpiku. Tu hadirkan dirimu yang dulu bermesra. Sungguh ku telah jatuh cinta dan terbelit kekacauan. Cinta yang berujung dusta meremukkan segala perasaan. Tak kukira semua kenangan indah akan berakhir perih, namun ku harus kuat menghadapinya. ku harus hampir saja ku mengakhiri. Tuhan tiakan adi, ku lupakan segala yang menekan jiwa. Bersyukur Tuhan masih menolongku. Merasuk ke jantung hati, sadarkan diriku. Sungguh ku telah jatuh cinta dan terbelit kekacauan. Cinta yang berujung dusta meremukkan segala perasaan. Tak kukira semua kenangan indah kan berakhir perih. Namun ku harus kuat menghadapinya. Ku harus sungguh ku telah jatuh cinta dan terbelit kekacauan. Cinta yang berujung dusta meremukkan segala perasaan. Tak kukira semua kenangan indah kan berakhir perih. Namun ku harus kuat menghadapinya. Sungguh ku telah jatuh cinta dan terbelit kekacauan. Cinta yang berujung dusta meremukkan segala perasaan. Tak kukira semua kenangan indah kan berakhir perih. Namun ku harus kuat menghadapinya. Ku harus.
C'était la deuxième chanson intitulée Ku harus, qui signifie je dois, chantée par Dudi Oris. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voynews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, allez visiter Tulungagung en province Java Est pour profiter de la beauté de la colline Cemenung. Java Est possède de nombreux lieux touristiques uniques qui peuvent constituer un choix de destination en vacances. L'un d'entre eux est la colline Cemenung, situé dans le village Tenggong, district Rejotangan, Tulungagung, Java Est. L'unicité et l'attractivité de ce lieu touristique résident dans l'existence de quatre grands bâtiments avec une cheminée au sommet. La construction de la cheminée à la colline Cemenung est due au fait qu'il existait jadis une zone d'extraction de calcaire, de roche, de manganèse et d'usine de calcaire. À première vue, la forme du bâtiment existant est similaire à celle d'une grande roue aux Pays-Bas. Autrefois, la région Tulungagung était le lieu d'exploitation de mines de calcaire. Le calcaire doit être brûlé
comme précieux de traitement pour pouvoir être utilisé dans l'industrie. La tour située sur la colline Chimenung est l'usine de fabrication de fours à calcaire appartenant aux hommes d'affaires chinois. Maintenant, bien qu'elle ne soit pas restaurée et que personne ne les gère, les tours ont toujours l'air robustes. À première vue, l'architecture du bâtiment ressemble à une tour de moulin à vent aux Pays-Bas. Par conséquent, de nombreux touristes qui viennent, en plus de visiter l'ancienne usine qui ressemble à un moulin à vent aux Pays-Bas, sont également nombreux à vouloir prendre des photos avec l'arrière-plan de ce bâtiment unique. La vue depuis les hauteurs donne toujours des sensations et une beauté extraordinaire. Et l'air sur la colline Chimenung est assez froid. Vraiment, le bon endroit pour oublier les routines quotidiennes. En plus de profiter du bâtiment unique, dans cette zone touristique, il existe également des installations pour le stationnement des véhicules, des salles de prière, des toilettes et des restaurants. Pour visiter des sites touristiques, vous pouvez utiliser des véhicules privés ou les transports publics. Si vous utilisez des transports publics, tels que des autobus ou d'autres moyens de transport public, vous pouvez vous arrêter au terminal d'autobus et continuer avec d'autres véhicules publics, tels que des taxis-motos pour la colline Chimenung. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Masih terbayang dalam anganku yang terindah tentang kita. Hi.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Ekadeli, dont le titre est Cinta Ini, ou en français, Cet Amour. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur en formant sur l'Université Gadjah Mada qui élève Jammu en tant que patrimoine culturel national. Le Jammu est l'un des patrimoines culturels indonésiens. L'utilisation de Jammu est enracinée dans la communauté depuis longtemps et héréditaire. Cependant, la culture de la consommation de jamu, soit plante médicinale, a pratiquement disparu, en particulier chez les femmes du millénaire. Les jeunes n'aiment pas boire le jamu, qui est à base de plantes pour un certain nombre de raisons. Constatant ce fait, la faculté de pharmacie de l'Université Gadjah Mada a été intriguée par la restauration de la tendance à la consommation de jamu en tant que patrimoine culturel national par le biais du Festival international de jamu. Cette activité a eu lieu du 14 au 17 novembre 2019 à l'hôtel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. L'activité ne comprend pas uniquement une variété de produits transformés pour les MPME d'Indonésie. Cependant, il s'agit d'un événement visant à créer un écosystème susceptible d'apporter des avantages pour la survie des MPME de jamu, soit médicaments à base de plantes, à l'avenir. Le doyen de la faculté de pharmacie de l'Université Gadjah Mada, professeur Agung Endro Nugroho, a expliqué que l'Université Gadjah Mada avait pour objectif de ramener le jamu à la surface ainsi que le palais, faisant écho aux valeurs associées au jamu dans la communauté. Il a exprimé le grand espoir que les plantes médicinales pourraient s'accrocher au mode de vie de certaines personnes, y compris la région spéciale de Yogyakarta. Même faire de remèdes traditionnels jamu une fierté pour le peuple indonésien. En plus d'améliorer la position de jamu pour devenir plus familière dans la communauté, Agung a déclaré que le festival était également un moyen de présenter jamu aux yeux du monde. Il espère que le remède traditionnel jamu deviendra une icône de la fierté indonésienne. Le coordinateur du Festival international de jamu, Dr. Ronny Martin, a expliqué que ce festival propose une série d'événements allant du salon de jamu, des arts de la scène Mbok Jamu, du Réok au séminaire. En outre, il y a eu également un talk show sur Jamu avec 14 pays qui partagent par la suite des histoires sur le Jamu dans leurs pays respectifs. Ronny a déclaré que dès la mise en place du festival, on espérait que Jamu pourrait être un produit intéressant à consommer aujourd'hui. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
membuat jiwaku ada resah bergelora yang mengawali cinta di hati. Ku coba untuk bicara apa yang ku rasa melalui perhatian diriku kepadamu. Biar cinta berbicara jujur apa adanya. Semoga apa yang ku impi untuk jadi kenyataan dan bersatu di dalam kasih yang suci. Kesan pertama ku rasa di dada, mungkinkah kini saat ku mencinta. Ku yakin engkau menerima kenyataan seperti yang ku rasakan, dan kita tak saling jatuh cinta. Jumpa diriku mulai suka dirimu yang mempesona. Begitu anggunnya membuat jiwaku ada rasa bergelora yang mengawali cinta di hati. Oh, ku coba untuk bicara apa yang ku rasa melalui perhatian diriku kepadamu. Agar aku tahu, biar cinta berbicara jujur apa adanya. Semoga apa yang ku impi untuk jadi kenyataan dan bersatu di dalam kasih yang suci. Kesan pertama ku rasa di dada, mungkinkah kini saat ku mencinta. Ku yakin engkau pun begitu juga, menerima kenyataan seperti yang ku rasakan, dan kita telah saling jatuh cinta. Kesan pertama ku rasa di dada, mungkinkah kini saat ku mencinta. Ku yakin engkau begitu juga menerima kenyataan seperti yang kurasakan, dan kita tak saling jatuh cinta. Oh yeah. Kesan pertama ku rasa di dada, mungkinkah kini saat ku mencinta. Ku yakin engkau pun begitu juga menerima kenyataan cinta.
Voilà la chanson de Didi Bofa, dont le titre est Kesan Pertama, qui signifie la première impression. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Cette édition présente des informations sur la chanson de Keroncong intitulée Melati Pesanku, une chanson originale de Keroncong créée par Gito Martoyo. Cette chanson raconte une femme qui a inauguré le départ d'un héros pour la guerre en saupoudrant des jasmins blancs. Cette chanson montre également l'esprit de soutien donné aux combattants. Pour le bien de la nation et de l'État, le cœur est prêt à laisser partir l'amour pour la bataille. Voilà l'information de la chanson dont le titre est « Melati Pesanku ». Une chanson pendant une lutte qui inspire enthousiasme et amour pour la patrie. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson intitulée « Melati Pesanku » chantée par Chris Tiwi.
Ooh.
Voice of Indonesia.
C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.